La grande équation.
Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, quand le carbone mène la révolution. Le carbone est un élément aux personnalités multiples. Sous sa forme, si on veut, crasseuse, on le retrouve dans le graphite, dans le charbon, tout noir, tout tachant. On le retrouve également en combinaison avec l'oxygène, l'azote et quelques autres éléments pour faire la base de la vie. Et, bien sûr, le symbole suprême du luxe, de la beauté, le diamant. Mais c'est pas tout. Depuis plus de 25 ans, on sait que la versatilité du carbone ne s'arrête pas à ces effets-là. En effet, le carbone peut aussi se faire révolutionnaire. Et en fait, depuis 1985, il mène la révolution de la nanoscience. Une science qui modifie doucement l'industrie de la haute technologie, bien sûr, mais aussi les produits qu'on consomme tous les jours et même la médecine. L'émission d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série sur un domaine tout nouveau du savoir, la nanoscience ou la science à l'échelle de l'atome. Si le sujet a fait couler beaucoup d'encre en France, par exemple, on en a assez peu parlé au Québec. Or, cette nouvelle discipline renferme à la fois de nombreuses promesses, mais aussi des craintes et des risques. Et pour éclairer certains de ces aspects, je reçois aujourd'hui Richard Martel, professeur de chimie à l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les nanostructures et les interfaces de conducteurs. C'est un spécialiste vraiment mondial du carbone sous ses formes les plus nouvelles, ces formes qu'on appelle des fullerènes et des nanotubes. Il a passé de nombreuses années au prestigieux centre de recherche T.J. Watson d'IBM, un centre situé dans l'État de New York, et il a rejoint l'Université de Montréal en 2003. Richard Martel, bienvenue à notre émission.
Bienvenue.
J'ai déjà mentionné le mot nanoscience à quelques reprises dans mon introduction. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi ça?
En fait, on parle souvent d'une dimension, du nano pour nanomètre, qui est 10⁻⁹ mètres.
Donc, un milliardième de mètre.
Un milliardième de mètre, c'est ça. Et pour bien comprendre le besoin d'avoir une échelle pour définir cette science, il faut vraiment s'attarder à la taille des objets et aussi aux propriétés qui sont liées à la taille. Pour les chimistes, par exemple, c'est pas étonnant de travailler sur les nanos. Les chimistes travaillent sur la molécule. Depuis très longtemps, un chimiste change un atome d'une molécule et on peut identifier des propriétés différentes. Mais les nanos, c'est un petit peu différent parce qu'elle vient plus d'une perspective de la physique.
C'est parce que les molécules qui sont composées de quelques atomes ont grosso modo la taille d'un nanomètre.
Non, les molécules sont plutôt de la taille du picomètre. Beaucoup plus petit. Si je prends l'exemple pour les chimistes là, du méthanol et de l'éthanol, c'est un bel exemple. Pour un chimiste, on enlève un carbone et deux hydrogènes. Ça représente une fraction minime d'atomes. Et on change le méthanol en éthanol. Un est toxique, crée la cécité. L'autre donne l'ivresse. Donc, pour les chimistes, c'est une approche normalement atomique, moléculaire. Mais pour les physiciens, on travaille la matière, on la façonne de plus en plus en petite taille pour pouvoir en extraire une propriété. Donc, enlever un atome ou en remettre un autre pour la perspective du nanomètre, d'un physicien, c'est très différent.
Et puis, à ce moment-là, la nanoscience, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est de nouveau?
Bien, la nanoscience, il faut vraiment comprendre ce que veut dire le nano pour pouvoir bien la définir. Si on prend, par exemple, la taille d'une fourmi, qui est quelques 15 mg, une fourmi, on peut avoir à peu près 70 fourmis dans un gramme. Donc, c'est un objet qu'on peut apprécier en taille, même une colonie de fourmis, on peut vraiment l'étudier avec nos yeux. Mais lorsqu'on s'en va du côté de la cellule, une cellule humaine ou un neurone ou un objet de cette taille-là, on ne la voit plus vraiment avec nos yeux. On voit l'ensemble de plusieurs. La cellule pèse à peine 10-10 grammes. Elle est 7000 nanomètres de dimension, mais on peut en ramasser 10 à la 10 dans un seul gramme. Donc, la notion du nombre commence à prendre vraiment son importance.
Oui, donc 10 à la 10, c'est 10 milliards de cellules qu'on va mettre dans un seul gramme.
Oui, d'où toute la complexité du cerveau reliée à un objet très petit, mais en très grand nombre, là, qui permet d'activer des fonctions multiples. Mais lorsqu'on parle de nanomètre, là, on parlait du micromètre pour la cellule. C'est des tailles petites, mais quand même des tailles qui sont visibles avec un microscope. Mais lorsqu'on parle de nanomètres, on tombe vraiment dans le régime un peu des molécules, comme les chimistes savent très bien travailler, mais c'est une taille plus grosse que l'on n'a pas vue pendant quelques années avant la découverte d'un microscope, le microscope électronique, là. Et le nanomètre représente un objet d'une taille qui pourrait assembler jusqu'à 10 à la 18 objets dans un gramme. Donc, une dimension encore plus fabuleuse là, que la dimension du micromètre là, des cellules.
Un milliard de milliards. Là, oui, c'est un chiffre qui est difficile à imaginer.
C'est un nombre énorme. Si on le compare avec l'âge de l'univers, par exemple, le nombre de secondes dans l'univers, il y a 10 à la 17 secondes dans l'univers. Donc, il y aurait plus d'objets nanométriques dans un gramme que de secondes qu'il y a eu dans l'univers. Donc, on n'a pas vraiment dans notre tête ces notions de dimension. Elles sont colossales. Là. C'est vraiment un nombre énorme que l'on compose très bien à travers la formulation de molécules, de médicaments. Par exemple, on sait concentrer une molécule en grande quantité, donc un nombre d'Avogadro très élevé de molécules, puis on en tire les propriétés. Mais des objets de petite taille façonnés pour pouvoir en tirer une propriété, c'est nouveau. Le contrôle à l'échelle du nanomètre de la matière, ça inspire les gens depuis quelques années et à bonne raison.
Et de quelle propriété parlez-vous quand vous dites on va façonner un objet qui aura quelques atomes ou quelques milliers d'atomes en taille? Quelle propriété nouvelle est-ce qu'on peut
en tirer? Le premier exemple qui peut sortir très facilement, c'est l'exemple du transistor qui a servi vraiment d'un tremplin économique là, phénoménal, même qui a transformé nos vies point de vue de la communication et même du calcul.
Et qui est à la base de toute l'électronique.
Qui est à la base électronique. Donc, c'est le transistor, le processeur, l'ordinateur est un peu le symbole de la consécration des nanos parce que les objets qu'on retrouve dans les technologies actuelles, c'est vraiment une technologie nanométrique.
Et ici, on parle à ce moment-là d'un transistor qui va nous permettre de dire oui ou non et d'être capable de générer des codes et des processus compliqués.
Là. Oui, l'ordinateur, c'est un assemblage de fonctions très simples qui fait simplement dire oui ou non à des influx de signaux électriques. Et puis, on a réussi avec des processus très simples, mais en multipliant en nombre très grand de ces petites fonctions, à le rendre quasiment intelligent. On fait référence, par exemple, à Big Blue, la machine que IBM a sortie il y a quelques années. Elle impressionne là, parce qu'elle est capable de défier l'homme là, du point de vue de l'intelligence, en particulier le concours Jeopardy là, qui aurait été gagné par une machine pour la première fois.
Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Richard Martel, professeur au département de chimie de l'Université de Montréal. Donc, en 1985, on découvre une nouvelle molécule à 100% à base de carbone et qui, si on veut, relance la nanoscience du côté excitant. Pouvez-vous m'en parler un peu de cette découverte-là et de ce qui en a découlé?
Oui, en 1985, c'était un peu l'année de mon baccalauréat en chimie physique. Et c'était la découverte du C60, le fullerène, la fameuse molécule là, par Croteau, Smalley et Curl, qui leur a valu le prix Nobel. Cette molécule qui ressemble à un ballon de football, a marqué l'imaginaire parce qu'il s'agissait d'une des premières formes de carbone pur pour lesquelles on avait un contrôle très particulier sur la structure et sur la propriété. On en a fait des matériaux plus complexes dans la suite des choses et c'est là que mon intérêt était intervenu avec la découverte du nanotube de carbone en 1990 par Ijima, un Japonais, qui est en fait l'équivalent d'une balle de C60 de fullerène à laquelle on allonge, comme un ballon de football étiré sur un des axes, qu'on allonge de façon quasiment infinie pour former une fibre de carbone, mais d'une taille d'à peine 1 nanomètre de diamètre et de longueur qui font jusqu'à plusieurs millimètres dans certaines synthèses.
Et une fibre, en fait, dont l'épaisseur du mur a un seul atome. Donc, c'est une fibre assez particulière.
C'est un réseau de carbone bien connu, là. C'est la forme du réseau de carbone dans le graphite, dans nos mines à crayons, qui sont des carbones juxtaposés l'un à côté de l'autre pour former une feuille, mais que l'on enroule tout simplement pour former un cylindre. Le cylindre fait 1 nanomètre de diamètre et, comme j'avais dit, des longueurs macroscopiques.
Et vos travaux, depuis le début de votre carrière, portent en partie sur ces matériaux fascinants.
Oui, oui. J'étais dans les années 1997-98. Je travaillais comme chercheur dans la compagnie IBM, qui, entre autres, prend le défi de taille, de réduire les tailles des transistors. On nous avait donné le mandat de faire une recherche des limites ultimes du transistor de silicium. Notre équipe était en train de chercher le transistor de silicium qui allait faire 10 nanomètres. La seule question qu'on avait à répondre, c'était de dire si c'est un transistor qui va être technologiquement intéressant ou non. D'un point de vue d'un chercheur, c'était un peu de se dire, bon, on recherche la fin de cette technologie du silicium parce qu'on recherche les limites ultimes de cette technologie. Et travailler pour une fin, c'est pas nécessairement très intéressant. Alors, on était très ouvert à ces nouvelles structures qui apparaissaient, comme le nanotube de carbone est arrivé dans le laboratoire sous forme d'une petite poudre. Et je pense qu'à partir du moment où on s'est mis à faire des expériences sur cette structure, on s'est passionné et mon travail continue depuis à travailler même encore sur la même structure que j'ai.
Et qu'est-ce qui est passionnant dans le nanotube de carbone? Qu'est-ce qui est particulier? Qu'est-ce qui fait que c'est l'exemple souvent le plus cité des nanosciences?
Oui, en fait, le nanotube de carbone a marqué l'imaginaire. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est qu'on peut l'imager très facilement. L'évolution des microscopes électroniques a été telle dans les dernières années qu'on s'est mis à pouvoir regarder en détail, entre autres le microscope à effet tunnel, inventé dans les années 80, nous permettait de regarder le détail de la structure et de faire un parallèle entre la structure et la propriété de l'objet. Et on parlait d'un objet de taille nanométrique. On pouvait placer les atomes de façon précise et on pouvait faire un calcul sur cette structure et de comparer les propriétés mesurées avec les propriétés théoriques.
On avait donc un lien direct, même visuel, avec ce qui se passait à l'échelle de quelques atomes.
Exactement. On avait un lien visuel, un lien théorique. On pouvait rassembler toute la science des années 50 à 90 dans un seul objet et pouvoir comprendre les propriétés de cet objet-là, qui sont des propriétés gérées par la mécanique quantique. Donc, on avait un objet à peu près unique. Et d'un point de vue de l'électronique, dans laquelle j'étais particulièrement intéressé, l'objet a vraiment marqué l'imaginaire parce qu'on a fait en 1998 un petit transistor à partir d'un des nanotubes qui est dit semi-conducteur, une propriété qui permet de conduire l'électricité d'une certaine façon, qui est celle du silicium, celle qu'on utilise pour,
l'électronique.
Pour l'électronique, oui. Et en fait, en une expérience d'une semaine à peine, on a réussi à tirer des performances de transistors à partir de cette fibre de carbone qui se comparait très bien aux meilleurs transistors qu'on fabriquait dans le labo à l'époque. Donc, tout de suite, on a publié cette petite découverte en disant, bon, il y a dans cette fibre de carbone de taille nanométrique exactement tout ce qu'il faut, non pas pour remplacer le silicium, mais pour offrir des possibilités nouvelles. Et même les travaux des dernières années ont montré que les possibilités sont plus grandes que ce que le silicium nous permet. Donc, elles dépassent, selon un chercheur d'IBM plus récent, des travaux plus récents, elles dépassent de 6 fois les performances attendues par le silicium aux limites du possible. Donc, c'est un objet qui a vraiment frappé l'imaginaire et on pourrait l'appeler le nanotube de carbone comme étant ce que la mouche a fruit est pour la biologie, nanotube de carbone est l'objet de prédilection pour les nanosciences.
Alors que tout le monde prédisait qu'avec le silicium, on s'en allait vers un mur, l'électronique allait être obligée d'arrêter, si on veut, tous les développements, c'est en contournant le problème avec quelque chose comme les nanotubes de carbone qu'on est capable de repousser les limites de ce qui est possible de faire.
En effet, il faut le placer dans ce contexte-là des années 90, fin des années 90. Il y avait la fin de la bulle des télécoms. Il y avait aussi la fin de l'évolution de la microélectronique qui était en face des compagnies comme IBM. Les Américains avaient une crise un peu existentielle du point de vue économique, un moteur économique qui s'arrête parce que les ordinateurs deviennent de plus en plus des commodités. Alors, le fait de présenter des matériaux qui offraient des nouvelles perspectives, si on dit, par exemple, qu'un matériau offre 6 fois plus de possibilités qu'un autre matériau, du point de vue de la microélectronique, ça représente plusieurs générations d'ordinateurs, donc ça frappe vraiment l'imaginaire. Mais entre l'imaginaire et la réalité, il y a un chemin qui est relativement long. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, on peut dire que le nanotube de carbone a révolutionné l'électronique dans ce sens-là.
Mais vous avez quand même fait des avancées importantes. Par exemple, vous avez développé une nouvelle électrode à base de nanotubes transparente qui a donc toutes sortes d'applications possibles.
Oui. Le rêve initial était de construire vraiment un ordinateur à partir des nanotubes de carbone. Puis la difficulté, c'est vraiment une difficulté de taille, c'est une difficulté qui s'adresse autant au contrôle des chimistes que des contrôles des ingénieurs pour les matériaux. C'est d'assembler ces structures-là de façon ordonnée et très précise à des endroits très déterminés et d'en tirer le maximum des propriétés. Et ça, je veux dire, la science n'a pas réussi encore à nous placer dans ce contexte-là. Les nanotubes ont certaines particularités et ces particularités en font un objet assez difficile à contrôler pour l'assemblage. Mais pour assembler le nanotube étant simplement une fibre, un peu comme les fibres de bois qu'on utilise pour faire le papier, c'est très facile de simplement filtrer le matériau, en faire un film relativement mince. En fait, on contrôle l'épaisseur du film très facilement avec les mêmes techniques qui sont utilisées pour faire le papier. Et on se rend compte tout de suite qu'on obtient un papier qui est conducteur électriquement parce que les nanotubes sont de très bons conducteurs électriques. D'ailleurs, c'est des objets qui battent les records en termes de conduction d'électricité, mais à la fois transparents. On peut voir à travers le film. Ce qui est possible, en réalité, dans l'industrie, avec des oxydes complexes, avec de l'indium, par exemple, des matériaux rares qui sont utilisés dans l'industrie, mais ici, avec une fibre de carbone pur, on obtient des propriétés à peu près équivalentes à l'oxyde d'indium là, qui est répandu dans l'industrie. Donc, c'est une des possibilités d'application pour cette fibre-là. C'est pas encore déterminé qui va remporter cette technologie, mais effectivement, une feuille transparente est intéressante pour les applications.
Pour les applications comme les écrans de télévision, comme les cellules photovoltaïques, et qui permet à ce moment-là d'ouvrir la porte à de l'électronique transparente, là, telle qu'on voit dans les films de science-fiction.
Effectivement, c'est exactement ça. Ça marque un tournant dans l'électronique où l'électronique devient portable, de plus en plus flexible, une électronique qui se touche plutôt qu'il se manipule avec des claviers. Donc, toutes ces technologies nouvelles où on utilise le doigt sur des écrans qui permettent l'éclairage et le positionnement des membres de son corps, etc. Toutes ces technologies demandent des nouveaux matériaux, des matériaux qui présentent une certaine flexibilité, une résilience ou aussi un poids qui est léger. Le carbone est un élément très léger dans le tableau périodique. Il présente cet avantage-là d'offrir toute la légèreté qu'on a besoin pour rendre portables les dispositifs.
Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Richard Martel, professeur au département de chimie de l'Université de Montréal, qui nous parle en fait des nanosciences et tout particulièrement des nanotubes de carbone et de leur impact possible sur notre vie. On a parlé de découvertes, d'applications dans les écrans de télévision flexible par exemple ou en photovoltaïque, mais on sent aussi chez certains une certaine peur de cette technologie-là. Par exemple, le livre de Michael Crichton, qui est sorti il y a presque une décennie maintenant, La Proie, montrait des nanorobots qui s'attaquaient à l'humanité et qui risquaient de détruire la race humaine. Sans aller, mettons, jusqu'à ce type de peur, quels sont les risques que vous voyez comme chercheur pour cette technologie, pour ces nouveaux produits?
C'est une bonne question. C'est une question qui nous tracasse tous en tant que chercheurs parce qu'on introduit des nouveaux matériaux dans la nature. Puis la première question, c'est sur la toxicité du composé que l'on est en train d'introduire. En ce qui concerne les nanotubes de carbone, il a été montré par les études qu'effectivement, un nanotube de carbone de taille 10 micromètres, qui est une fibre qui ressemble un petit peu à la fibre d'asbestos.
D'amiante.
Les fibres d'amiante sont des fibres reconnues pour induire une inflammation dans le poumon. Et pour les nanotubes de carbone, ça a été étudié dans les années 90 et 2000. Des nanotubes de carbone de taille gigantesque, sur l'échelle du nanomètre, sont des fibres toxiques. Parce qu'elles s'accumulent dans le poumon, elles induisent des inflammations. Mais la plupart des études qui ont fait des approches plus avec les tubes nanométriques, de taille très petite...
Du type de ceux qu'on utiliserait dans les électrodes, par exemple, ou le type de dispositif que vous développez.
Nanotechnologiques, montrent qu'en fait, la cellule gère très bien ces objets-là. Ils sont de petite taille. La cellule est capable de les encapsuler, de les éliminer à travers le corps d'une façon à peu près anodine. Parce que c'est vraiment la taille des protéines et le mécanisme de défense de la cellule gère très bien ces objets de taille nanométrique. Donc, dans le cas des nanotubes de carbone, ça a été étudié. C'est encore le cas. On ne peut pas se prononcer sur la toxicité immédiate. Mais dans mon laboratoire en particulier, on traite l'objet comme un produit toxique, au même titre que des produits chimiques. Donc, on les travaille dans la hotte.
C'est-à-dire, vous les travaillez dans des conditions où vous n'êtes pas en contact direct avec ces nanotubes.
Exactement. Donc, on fait attention, on les travaille en solution et on les traite. D'ailleurs, dans un laboratoire de chimie, souvent même l'eau est traitée comme une substance toxique, simplement parce qu'on ne peut pas vraiment savoir exactement tout ce qu'il y a sur la paillasse et à quel moment. Donc, on fait attention dans ce sens-là. Mais les études sont encourageantes du côté des nanotubes de carbone, que l'objet ne serait pas nécessairement très toxique.
Et puis, d'un point de vue environnemental, vous dites, si vous arrivez à remplacer des électrodes avec des métaux très rares, très coûteux, à extraire et plus coûteux pour l'environnement, si on remplace ça par du carbone disponible facilement, ici, ça serait plutôt un plus.
Ah oui, dans ce cas-ci, c'est clairement avantageux. Le nanotube de carbone est synthétisé à partir du gaz naturel, donc très facile de synthétiser avec le minimum d'impact écologique sur l'environnement. Et on crée une fibre qui est effectivement très résistante, qui n'est pas biodégradable. Dans un contexte de l'électronique, où il y en a très peu, ça ne représente pas vraiment un problème particulier, quant à moi. Mais évidemment, il faut voir les quantités. C'est toujours une question de quantité et une question de forme, sous quelle forme ils peuvent apparaître. Et ça va demeurer une question de débat là, et d'inquiétude, là, et c'est normal.
Et puis, vous nous dites, on travaille là-dessus depuis une vingtaine d'années, il n'y a pas encore de révolution. Qu'est-ce que vous voyez au cours des prochaines années dans ce domaine-là? À quand la révolution?
À quand la révolution? C'est toujours le rêve du chercheur. Un chercheur qui cherche, on en trouve. Mais un chercheur qui trouve, on en cherche. C'est cette expression-là qui exprime vraiment... on rêve de pouvoir apporter des solutions modernes, nouvelles, dans une industrie, dans mon cas, c'est l'industrie de l'électronique. On apporte des connaissances, des matériaux nouveaux. On essaie de les comprendre, mais aussi on essaie de les mettre en forme, de les rendre utiles. Et on pense pouvoir régler des problèmes technologiques dans un avenir qui s'en vient. Mais... si on pouvait prédire l'avenir, je serais le premier à pouvoir dire que les nanotubes de carbone vont révolutionner l'électronique. Mais ce n'est pas le cas. En fait, il y a beaucoup de possibilités différentes. Il y a différentes approches. Et c'est forcément une belle aventure que de chercher à contourner des problèmes par des solutions modernes. Et c'est l'essence même de notre travail. Dans le cas des tubes, si j'ai à faire une prédiction, dans mon groupe, on fait l'hypothèse que les tubes ont été introduits dans l'électronique sous une forme ou une autre. Donc, on travaille à les comprendre, à les manipuler, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on peut ignorer. Et sur cette base-là, je pense qu'on ne peut pas se tromper. On sait que c'est un matériau d'une propriété exceptionnelle qui a vraiment un rôle à jouer là, dans les électroniques modernes.
Richard Martel, professeur de chimie à l'Université de Montréal. On va certainement suivre avec très grand intérêt le développement de cette technologie-là. Et je vous remercie de nous avoir accordé cette entrevue.
Je vous remercie.
Cette émission s'inscrit dans une série sur les nanosciences, leur importance, leur impact possible dans le domaine de la haute technologie, mais aussi des produits de tous les jours et de la médecine. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez entendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Et c'est Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.